know you're a feminist.
It was not a compliment.
Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté.
They wanted to silence one Malala, but instead, now thousands and hundreds and millions of Malalas are speaking and they're fighting for their rights.
Il n'y a rien de pire que le viol.
On se lève et on se casse.
Bienvenue sur Charbons Ardents, votre rendez-vous du midi, tous les deuxièmes jeudis du mois. Pendant une heure, Chat et Mareuil vous parlent tous les mois des sujets qui fâchent. En partant d'un témoignage sur les violences quotidiennes, on décryptera ensemble un exemple médiatique avec à la clé des outils pour comprendre le militantisme d'aujourd'hui. Charbons Ardents, c'est sur Prune, 92 FM, et c'est maintenant.
Tu grossis à vue d'œil, dit mon père lorsque j'étalais un merveilleux morceau de beurre sur ma tartine. C'est le genre de réflexion que j'ai pu entendre à plusieurs des repas de famille comme à ceux du quotidien. Parce que oui, j'étais une petite fille rondelette et en bonne santé, mais les remarques désobligeantes de mon père saccageaient ma santé mentale sans que je m'en rende bien compte à l'époque. Comme si la couche de grossophobie qu'étalait mon père sur ma vie ne suffisait pas, mes soi-disant camarades de classe ne se sont pas gênés d'y ajouter leur confiture de brimade. J'étais la petite grosse de la classe et je me définissais en tant que telle, si bien qu'en CM2, Mathilde, la nouvelle, que je considérais plus grosse que moi, et qu'il était, de toute évidence, a sauvé ma vie sociale à l'école. Force et honneur à toi, Mathilde, aujourd'hui, et mille pardons d'avoir pu penser cela, c'était la petite fille en détresse qui agissait ainsi. Mathilde est donc devenue la grosse de la classe à ma place. Elle était aussi la plus grande, ce qui lui a valu double peine. À 7 ans, le soir, je priais dans mon lit pour maigrir. Même si cette dernière année d'école primaire m'a semblé plus confortable, les limites de la grossophobie ne s'arrêtent pas devant le portail du collège. Grosse vache, pingouin, femme enceinte. Oui, femme enceinte. J'ai envie de vous dire, vive la récré de la rentrée en 6e. Soit dit en passant, je n'étais pas la seule à subir les brimades des 4e et des 3e, et les critères pour être qualifiée ainsi ne se justifiaient qu'à partir du moment où les cuisses étaient plus dodues que la norme, et cela s'adressait à tous les genres. Je pense que nous sommes tous d'accord pour affirmer que l'adolescence est une période ingrate dans la vie. Le collège n'aide en rien. Dois-je mentionner les crises d'angoisse le mardi matin quand il y avait 2 heures de PS de 8 à 10 heures et que c'était le trimestre piscine? Ou encore les sports collectifs type basket où Kevin, le BG de la classe, et Raïssa, la meuf populaire que tous les mecs définissent comme étant aussi bonne qu'un buns, se chargent de faire les équipes gagnantes en me laissant dernière à être choisie si je n'étais pas désignée d'office par le professeur puisque personne ne voulait de moi. Dit comme ça, on imagine la scène, très cliché, où la petite grosse ou le binoclard finissent assis sur le banc en regardant les autres jouer. Eh bien, c'est certains clichés, mais un cliché bien réel et traumatisant. Au lycée, c'est encore autre chose. En seconde, j'étais la risée de Grégoire G, le grand blond de la classe. Il m'a élu grosse vache officielle à la récré en le criant devant toute la classe, puis s'est empressé de dire au professeur principal que j'étais volontaire pour être déléguée. Or, je voulais simplement devenir transparente, être la plus invisible de la classe, mais cet enfant saint du patriarcat, expression que j'emprunte avec honneur à Mona Chelet, a fait de mon année de seconde un enfer. Parmi ses missions humiliation, il demandait aux autres élèves de garder leurs papiers de bonbons, Kinder et autres sucreries pour les fourrer dans mon casier afin qu'en l'ouvrant, tout me saute au visage. Solène, ma chère, ironie, copine de classe Solène, enfant de sainte du patriarcat elle aussi, m'a dit une fois « C'est dommage que tu sois grosse, car t'as un beau visage ». À la maison, je ne suis pas vraiment aidée par les parents. Parents séparés, mère isolée, bref, galère financière. Mais il y avait de l'amour maternel et sororal, et aussi toujours à manger dans le frigo. Rien à voir avec le thème de la grossophobie, mais pour pallier mon chagrin d'enfant ado, je me réfugiais dans la nourriture. Tout ce qui était sucré m'était doux, et heureusement qu'il y avait ça. C'est d'ailleurs le paradoxe de ma vie. Je me console avec le sucre quand les kilos me rendent profondément triste, et cela me poursuit encore aujourd'hui. Mon mal-être d'adolescente m'a coûté 2 phobies scolaires, 3 redoublements de classe et 2 changements d'école. Je grandissais certes dans un contexte familial compliqué, mais être grosse ne m'a pas vraiment aidée à devenir quelqu'un de fort, sans mauvais jeu de mots, ou du moins c'est ce que j'ai cru pendant longtemps. J'ai été déscolarisée pendant 6 mois pour phobie scolaire et ulcère à l'estomac. Pendant ce temps, je me suis réfugiée dans le jeu World of Warcraft. Quel bonheur d'être dans la peau d'une elfe à la taille de guêpe qui reflète le parfait fantasme des ados de mon âge à l'époque. Quelle joie d'être cachée derrière l'écran. J'y ai même rencontré mon premier amour. Il habitait à Orléans et moi dans le Nord, j'avais 16 ans et lui 20. On s'était promis de se rencontrer pour de vrai 4 mois après notre rencontre dans le jeu. J'étais dans une angoisse sans nom à l'idée qu'il me voit telle que j'étais, c'est-à-dire en jean taille 44. Sans injonction de sa part, je me suis convaincue de perdre un maximum de poids avant de le rencontrer. J'ai donc arrêté de manger. Une pomme verte par-ci, par-là. Pas de plat de résistance le midi, que l'entrée. J'achetais des conneries de boissons coupe-faim sur Internet, j'allais courir tous les jours et je rentrais en pleurant. Moins 15 kilos en 4 mois, quel bonheur. Cependant, lorsque je l'ai finalement rencontré, j'avais l'impression de lui mentir sur qui j'étais. Lui s'en moquait de la taille de mes hanches, il m'aimait, c'est tout. Entre-temps, j'ai repris autant de poids que j'en avais perdu. Aussi, pendant mes périodes de célibat, mes deux amis avec qui je traînais entraient dans les stéréotypes de beauté qui plaisaient aux garçons. Alors souvent, quand nous étions invités par sa dernière à rejoindre leur table dans les bars, j'étais invisible. Ils ne m'adressaient pratiquement pas la parole, je passais totalement inaperçue, à tel point qu'ils commandaient des verres pour elle, et moi je passais à la trappe. Ainsi, les croyances toxiques liées à la grossophobie que j'ai accumulées depuis petite m'ont menée dans des chemins bien rugueux. Aujourd'hui, 27 ans, 1m58, 94 kg, taille 44 en haut, 46 en bas, c'est une bataille contre moi-même, contre ces idées reçues, ancrées dans ma tête. Elles dessinent une image erronée de mon corps, ces idées qui me font voir de l'horreur dans mes cuisses alors qu'elles sont juste rondes, belles et saines. Je dis merde aux chaises avec accoudoir, à Zara qui va jusque taille L. Je dis merde à Azos qui mélange grande taille et maternité, comme si être grosse voulait forcément dire être enceinte. Je dis merde au monsieur qui me regarde bizarre car j'achète 600 grammes de Philadelphia pour mon cheesecake. Je dis merde à ce mec qui me drague en fin de soirée parce que sa première pro n'a pas voulu de lui, alors il se dit que moi, c'est sûr, je vais dire oui. Je dis merde à Kevin du collège. Je dis merde à Grégoire et Solène du lycée. Je dis merci à cette quatrième vague féministe pour m'avoir ouvert les yeux sur la beauté de mon corps. We're gonna burn this patriarchy
down! Dans Tout Feu, Toute Flamme, on vous donne les munitions qui vous ont peut-être manqué pour foutre le feu aux poudres au pied du sapin, au détour du foie gras, là, juste avant de porter un toast, histoire de pouvoir répondre à
« On ne peut plus rien dire »
par
« Si, tonton Marcel, voilà tout ce qu'on peut dire »
et bien le dire.
Ah Noël, ces lumières, ces cadeaux, ces films aussi épais que du sirop d'érable et l'infinie joie de revoir papy, pépé, papa et beau papa. Période maudite qui cristallise bien des aspects de notre système phallocrate, les fêtes sont l'occasion de nous renvoyer à nos êtres, nos personnalités, nos apparences et nos choix de vie comme s'ils étaient des anormalités monstrueuses, des sources intarissables de déceptions et de bonnes blagues.
Infantilisante période où les injonctions à la consommation pètent le plafond, où le stress nous incite à surcompenser. Le retour en famille, c'est aussi l'occasion de se prendre en pleine face les stéréotypes des générations précédentes, leur laborieuse, voire impossible déconstruction. Coucou maman qui crie à l'attaque quand je lui parle de son privilège blanc. Et quand les esprits s'échauffent à l'eau de vie, c'est rarement les mecs qui se font humilier.
Si vous aussi vous décompressez avec un combo Lexomil vin blanc en guise de sourdine aux voix de vos proches, le sang de la veine, cela même que vous n'auriez pas choisi un couteau sous la gorge, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous avez le droit d'être stressé ou même de ne pas y aller, excuse en or, vous êtes cas contact.
Parce qu'il n'y a guère que dans les films de Noël tout lisse, que tout est bien qui finit bien, et que si vous avez décidé envers et contre tous les diktats de vous épargner cette torture, vous n'êtes pas coupable de haute trahison, car vous avez le droit de prendre soin de vous. Gide avait beau être putride, il avait bien raison en disant « famille, je vous hais ». Alors, en termes de munitions, voici quelques-unes pour ne pas juste les assourdir, mais pour leur couper le sifflet au prochain rassemblement. Fuck it, I'ma roll with it, I'ma roll with it. Ain't ya boo boo? I don't care if you're 100 pounds, 200 pounds, 300 pounds, 400 pounds. If you're fat, girl, then hold it down. Pick it up and then drop it down. Pick it up and then drop it down. Get it, pitch it up and then drop it down. Get it, pitch it up and then drop it down. Get it, pitch it up and then drop it down. 100 pounds, 200 pounds, 300 pounds, 400 pounds. If you're fat, girl, then hold it down. Pick it up and then drop it down. Pick it up and then drop it down. Get it, pitch it up and then drop it down.
Aujourd'hui, dans la lignée de notre problématique des oppressions et diktats imposés au corps féminin, on va parler du sujet vaste de la grossophobie. Déjà parce que c'est une période stigmatisante et que les retours au bercail se sont accompagnés immanquablement de remarques sur votre poids, le poids des femmes, en mode « t'as pas un peu grossi, toi ?» Et ensuite parce qu'une fois qu'on aura passé la débauche, dès janvier, on va immanquablement nous demander de maigrir après les fêtes, de prendre de bonnes résolutions pour se rattraper d'avoir joué le jeu de la société de consommation et du saint pays du foie gras.
Et ouais, on est en plein dedans. Alors, la grossophobie, c'est quoi et pourquoi c'est important d'en parler ? Déjà, il est à noter que le terme est récent et le fruit de la lutte d'associations qui se sont battues pour faire reconnaître le phénomène et la souffrance qu'il engendre. Pour rendre aux Amazones militantes ce qui leur appartient, on peut citer l'association Allegro Fortissimo qui a ouvert la voie dans les années 90 et dont le travail est aujourd'hui soutenu et prolongé par Gras Politique, entre autres. Signe d'une avancée significative, le terme grossophobie est entré dans le dictionnaire en 2019. Grossophobie, c'est la peur et la stigmatisation des gros et des grosses, des personnes de forte corpulence qui créent des hiérarchies entre les physiques,
en se basant sur le diktat toujours d'actualité de la minceur et qui engendre de graves discriminations dans tous les domaines, transport, santé, famille, économie. Solène Karoff en parle très bien dans son ouvrage de sociologie « Grossophobie, sociologie d'une discrimination invisible ». On vous en recommande la lecture si le sujet vous intéresse.
Alors aujourd'hui, la lutte évolue pour visibiliser les différentes problématiques que rencontrent les personnes grosses au quotidien et dont on va parler dans cette émission. On a aussi beaucoup fait le reproche au féminisme de délaisser ce sujet. Le problème de la grossophobie, en fait, doit devenir un enjeu central de la lutte féministe. Parce que être une femme grosse engendre des discriminations qui sont spécifiques dans de nombreux domaines et qui ne sont pas partagées par les hommes gros. Alors c'est le cas en particulier de tout ce qui touche les violences obstétriques, le droit à la contraception et à la procréation dans le domaine de la santé. On remet ainsi en cause la capacité des femmes grosses à avoir des enfants d'un côté, et en même temps on commercialise des contraceptifs qui ne sont conçus que pour les femmes de moins de 85 kilos.
Allez comprendre. On parlera d'ailleurs de ces violences médicales dans un autre numéro parce qu'il y en a des choses à dire sur le sujet. Mais pour revenir à la grossophobie, un autre stigmate dont les femmes grosses souffrent par ailleurs, c'est l'intense sexualisation dont elles font l'objet, qui est au demeurant considéré comme un fétichisme, et qui n'existe pas vraiment dans l'autre sens.
À l'exception peut-être du fétichisme des bears, qu'on peut traduire par les ours, dans le milieu gay comme hétéro, mais ils font plutôt l'objet d'une préférence que d'une fétichisation, puisqu'ils sont souvent vus comme puissants, forts et protecteurs. Oh, you're gonna take me home tonight.
Nombreux sont les hommes qui apprécient les femmes grosses, mais qui refuseraient d'être vus en public avec elles, et les cantonnent à des relations sexuelles souvent violentes et rabaissantes. Malgré ce phénomène, on observe pourtant des dénis de viol, des difficultés à porter plainte accrues pour les femmes grosses qui ne sont pas crues ou moquées par les structures judiciaires. Alors si être un homme gros est évidemment source de discrimination, on voit que pour les femmes, c'est encore un degré d'oppression au-dessus, et ce, d'autant que de l'aveu de tous, on commence à considérer une femme comme grosse, et on met vraiment la dose de guillemets là, dès le 40, là où les hommes doivent atteindre une corpulence beaucoup plus importante pour commencer à ressentir les discriminations.
Et puis dans notre joyeuse société qui adore confisquer le corps des femmes et s'en mêler quand ça ne la regarde pas, une femme grosse risque toujours de s'entendre demander si elle est enceinte, ce qui, disons, a un moindre risque pour les personnes identifiées comme masculines. On n'ira pas demander à un homme gros s'il attend un bébé. Alors pourquoi c'est particulièrement dur de subir la discrimination grossophobe ? On va parler de ses causes pour commencer, et de ses manifestations au quotidien ensuite.
Nos alliées théoriciennes du jour seront Gabrielle Dédier, autrice de « On ne naît pas gros » et documentariste.
C'est elle qui a co-réalisé « On achève bien les gros », un docu Arte vraiment éclairant.
Et Roxane Gay, une féministe majeure, autrice de l'essai « Hunger ». Et enfin, Daria Marx, cofondatrice de « Gras politique ».
Déjà, ce qui ressort des témoignages et analyses des fat activistes et personnes souffrant de grossophobie plus généralement, c'est qu'en fait, on a tendance à distinguer les, j'ouvre les guillemets, bons gros, ferme les guillemets, des mauvais gros, là aussi c'est entre guillemets, alors c'est Dédié qui dit ça. Un peu comme en fait à l'époque du colonialisme, on distinguait les, pareil, j'ouvre les guillemets, bons noirs, c'est-à-dire ceux qui voulaient s'intégrer et obéissaient, des, entre guillemets, mauvais noirs. On se dit à l'époque du colonialisme, comme si on en était sorti. Concrètement, ça veut dire quoi ? Le entre guillemets bon gros, c'est celui qui n'est pas responsable de son surpoids aux yeux de la société. C'est-à-dire qu'il est gros pour des raisons génétiques, de maladies, et surtout qu'il essaye de ne plus l'être. Et de ce fait, la société accepte de lui pardonner. En face, le entre guillemets mauvais gros, c'est la personne qu'on rend responsable de sa grosseur.
Et Et là, tout de suite, on peut voir déjà une des raisons qui rendent la grossophobie si difficile à combattre. Elle est médicalisée grâce au calcul de l'IMC, cet indicateur d'un autre âge complètement pété qui ne prend que les facteurs poids et taille en compte. D'ailleurs, il me classe par exemple dans la catégorie surpoids alors que je rentre dans un 36-38, allez comprendre. Aux yeux de la majorité des gens, la grosseur apparaît donc comme soignable, comme réversible. On part du principe qu'on peut faire en sorte de ne plus être gros là où on n'y peut rien, si on est, disons, asiatique, handicapé, gay, une femme.
Ou pire encore, un combo des quatre.
Oh, parle pas de malheur.
Comme les gens partent du principe qu'on peut combattre le surpoids, ils rendent les personnes grosses responsables de leur état et attendent d'elles un changement pour rentrer dans la norme. Donc ça va donner des comportements ignobles d'ingérence, de surveillance constante. Donc les personnes grosses rapportent tout avoir peur de manger en public.
Y compris en famille.
S'être déjà pris des remarques, notamment si elles ont l'audace de consommer de la malbouffe. Des phrases du genre « c'est pas comme ça que tu vas maigrir » ou pire « vas-y bouffe » et autres horreurs du genre.
D'où une culture où on cherche toujours à savoir pourquoi la personne est grosse. Quelle est l'explication? Est-ce médicale et génétique, auquel cas on aura pitié? Ou est-ce de son propre fait? Et si tel est le cas, que fait-elle pour changer? Régime, suivi par des diététiciens, diététiciennes, exercice, sport intensif, chirurgie bariatrique. Tout le monde y va de son conseil et la société capitaliste ne manque pas de moyens. Tous très onéreux, bien entendu, pour nous laisser entendre que oui, maigrir est possible et que si vous n'y arrivez pas, c'est entièrement et complètement de votre faute. Dans la même veine que le mythe de la méritocratie, quoi, il n'y a qu'à traverser la rue. Le « mauvais gros », guillemets bien sûr, est alors associé aux idées de laisser aller, de se négliger, les fameuses expressions toutes faites du type « faire attention à soi », « prendre soin de soi », « se respecter ». Comme si maigrir avait quoi que ce soit à voir avec du care, du respect et surtout du self-control. Car il s'agit aussi de ça. La société représente à tort, je précise, les personnes grosses comme des gens incapables de se contrôler, de manière bien plus visible que les alcooliques ou les drogués à qui on pardonne plus de moins se donner en spectacle. Tout ce que je viens de dire est entre guillemets et pas cautionné par la maison bien entendu. Et en même temps, s'il est possible d'arrêter totalement de consommer des substances psychotropes, il est impossible d'arrêter totalement de manger.
J'étais mince, comme un pied de micro brillant et creux, comme un dobon fin, comme une corde de mie triste, comme un film de Jacques Demy ou Catherine Deneuve fait un régime. Elle voudrait séduire Memphis Slim, mais BB King, fou de rage, va s'opposer à leur mariage. Comment devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir fou?
Cette idée de responsabilisation, en fait, elle rejoint la fameuse culture du viol dont on n'arrête pas de parler. Au cœur de la discrimination, on met la responsabilité, voire en fait la culpabilité, sur la victime. Alors ici, c'est pas une culture du viol, c'est ce qu'on appelle une diet culture, la culture du régime. Celle-ci encourage en fait l'idée que les personnes grosses ne souffriraient pas si elles changeaient suffisamment pour respecter les diktats, et qu'elles ne peuvent donc s'en prendre qu'à elles-mêmes si elles reçoivent des insultes, si elles subissent l'oppression et les discriminations. Car oui, en fait, la grossophobie, c'est systémique. Alors, pour continuer un peu le parallèle avec la culture du viol, je rappelle que le viol est le fruit d'un système, un système qui éduque les garçons à croire que leur libido est incontrôlable, à voir les femmes comme au service de leur pulsion, à penser le consentement comme une valeur par défaut, et que ce même système considère pourtant ensuite que les femmes violées sont souillées, abîmées, et en partie responsables d'une agression dont on ne veut pas parler et sur laquelle on les insiste à garder le silence par tout un appareil judiciaire qui est misogyne.
Et dans la grossophobie, on observe le même phénomène. C'est le système qui crée la grosseur et c'est le système qui punit ses propres victimes en créant des hiérarchies qui placent la minceur extrême en valeur suprême et la grosseur en infériorité. Pourquoi je dis que le système crée le problème ? Même s'il n'y a pas à se justifier en donnant une explication et une bonne raison d'être gros ou grosse, il ressort qu'il y a deux causes de surpoids dans la société actuelle, d'après les analyses et témoignages des fat activistes.
Une des causes qu'on peut donner pour commencer, c'est une cause psychologique. Pour en parler, on se base sur le témoignage assez dur et édifiant de Roxane Gay, dans Hunger. Elle en donne un exemple flagrant, puisqu'elle a subi un viol collectif à l'âge de 12 ans. Et ensuite, elle est pointée du doigt à l'école et traitée de salope. Donc, classique cas de responsabilisation de la victime. À ce moment-là de sa vie, elle utilise la nourriture comme réconfort et elle se construit une forteresse entre elle et le monde. Alors, Gabrielle Dédier parle là de forteresse d'adiposité. C'est une sorte de tentative désespérée de se créer une barrière entre soi et le monde, de se protéger d'un monde qui est hostile. Il y a des gens qui utilisent la drogue, l'alcool, les médicaments, l'automutilation. Mais la nourriture est souvent un réflexe qu'on utilise pour se réconforter. Sauf que là, il y a un cercle vicieux qui se crée parce que plus on grossit, plus la société se montre hostile à notre égard et plus on a envie de s'en protéger et de mettre des barrières comme on peut. Donc oui, c'est bien le système qui crée de la souffrance pour les humains et humaines, souffrance face à laquelle en fait on a chacun, chacune, notre propre stratégie plutôt compensatoire.
Tragédie, ça marche bien aussi.
C'est vrai. Ici, ce système phallocratique et misogyne, qui est violent, qui est bourré de diktats, pousse certaines femmes à chercher du réconfort, voire même à en faire en fait une stratégie d'évasion, parce que certaines femmes grosses parlent en fait d'enlaidissement, hein, puisque la société voit la grosseur comme une forme de laideur. Et cette stratégie d'enlaidissement, c'est une tentative de devenir repoussante pour ne plus avoir à subir d'agression. Alors on parle à ce moment-là de TCA, de troubles du comportement alimentaire qui regroupe aussi bien l'anorexie, la boulimie que l'hyperphagie et bien d'autres manières pour les femmes d'essayer de reprendre le contrôle sur leur corps.
Et l'autre cause de la grosseur est plus spécifiquement liée à nos régimes alimentaires, mais ceux-ci ont moins à voir avec des questions de volonté et d'éducation qu'avec les stratégies ignobles mises en place par les lobbies capitalistes. On en revient toujours au capitalisme. Contrairement à une croyance qui est surtout apparue dans les années 50-60, à la suite de manipulations d'études scientifiques par les industries du sucre notamment, on a fait du gras notre grand ennemi et on a cherché à le remplacer par des produits transformés qui sont en réalité de terribles ennemis pour nos métabolismes et qui engendrent des problèmes de santé dans lesquels on n'aura pas le temps de rentrer en détail aujourd'hui. Rajoutons à cela un max de perturbateurs endocriniens lâchés dans la nature et on obtient un combo explosif.
On vous conseille sur le sujet le documentaire de Sylvie Gilman et Thierry Vincent de l'Estrade intitulé « Un monde obèse » qui est disponible sur Arte. Ce documentaire, il analyse comment les grandes industries du type Coca-Cola, pour pointer...
Sans les nommer.
Voilà, exactement. Ont menti sur les dangers de leurs produits, ils ont corrompu les politiques et les études scientifiques et ils ont inondé le monde entier de leur saloperie sucrée, donc tranquille. Ils vont jusqu'à menacer de mort les sénateurs, les politiques, les activistes qui oseraient se mettre sur leur route. Donc vraiment un gros désir de nous bourrer de sucre. Alors il faut noter que désormais au Mexique, l'eau coûte plus cher que les sodas. Et c'est là qu'on voit à quel point la grosseur est aussi un enjeu politique, parce que dans les quartiers les plus pauvres de chaque pays mondialisé, les légumes, le bio, les produits frais et non raffinés, qui sont de toute façon plus chers, sont souvent introuvables, alors que les kebabs, McDo et les autres tacos, qui sont en plus ouverts à toute heure, sont accessibles partout et à toutes les bourses. Donc on voit à quel point on met le sucre à disposition pour ensuite reprocher aux gens de grossir, ce qui est quand même assez gonflé.
Et d'ailleurs, en Colombie, le kilo de haricots rouges coûte plus cher que la cocaïne, donc c'est dire que la nutrition intéresse vraiment les politiques et la société. Pour finir, les sodas s'insèrent dans tous les foyers par le marketing, qui assomme les enfants dès le plus jeune âge et devrait, du fait de l'impact prouvé de ces produits sur la santé, être illégal, ce qui est le cas par exemple au Chili, où les produits trop sucrés, salés, transformés n'ont pas le droit de diffuser leur publicité. Et ils n'ont pas de jolis jingles comme nous, c'est dommage.
Ni de jolis personnages genre des tigres et autres choses mignonnes pour nous boucher les artères.
Ah non, ça fait longtemps que j'ai pas regardé la télé, je veux les voir moi.
Bête et méchant, les deux emmerdants n'aimaient que l'argent et la crème Mont Blanc. Ils avaient un plan pour un coup d'état, pour un pif pouf pan avec un bazooka. Ils avaient un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout odue, la mère Ubu.
On voit un peu comment ça marche, les mécanismes du truc. Donc pour synthétiser, la société crée un problème, grand 1. Le pointe ensuite du droit en invisibilisant et stigmatisant les personnes grosses qui en sont victimes, grand 2. Et finit par offrir des solutions très chères pour résoudre ce problème qu'ils ont créé. Tout en nous faisant croire bien sûr que maigrir c'est facile. Ce alors que 95% des régimes, 95% chats, échouent sur le long terme. Rappelons ici les couvertures de magazines à top modèle de 14 ans ultra retouchés qui nous assaillent dès qu'on fout un doigt de pied dehors. Moins 3 kilos avant l'été, perdre 5 kilos en mangeant de l'air et du PQ pendant 21 jours. On nous responsabilise, si on veut bien dépenser pour perdre, on y arrivera, gros discours de coach américain. Or, l'invisibilisation des personnes grosses, jamais héroïne mais toujours soit méchante, hein, Ursula dans La Petite Sirène, soit super bonne pote caricaturale qui doit être, ouvrez les guillemets, rigolote dans son second rôle perpétuel, a de très graves conséquences au quotidien. Et c'est notamment dans le domaine de l'accès aux soins qu'on va voir à quel point c'est compliqué.
En même temps, Ursula, grosse icône lesbienne, hein, je pense qu'elle a fait fantasmer beaucoup de petites filles. Donc, quelque part...
Elle est tellement classe.
Merci Disney. En 2018, Naomi Musenga appelle le SAMU et plutôt que d'être écoutée, elle est moquée. À cause du comportement de ses interlocutrices, elle est transportée trop tard aux urgences et meurt d'un arrêt cardiaque. Des associations féministes se mobilisent et lancent un questionnaire en ligne qui révèle que 71% des individus en surpoids souffrent de propos dégradants et de moqueries lorsqu'ils contactent les services d'urgence. J'ose même pas imaginer le pourcentage atteint pour les personnes catégorisées comme obèses. La grosseur est donc le premier critère de discrimination d'accès aux soins d'urgence.
Ouais, c'est assez concernant. Et puis là, on est dans l'étape avant d'entrer dans l'hôpital, quoi. Donc on se dit compte, c'est 71%, ça donne pas très envie de téléphoner. Alors en plus, il faut rajouter à ça que les hôpitaux n'ont qu'un seul fauteuil roulant qui est adapté aux personnes grosses.
Ça va, il y en a un déjà.
C'est vrai. Une seule ambulance pour personnes grosses par département. Et pas de lit quand on pèse plus de 130 kilos, sans parler évidemment des tables de soins qui sont en réalité beaucoup trop étroites. Une personne grosse se verra par-dessus le marché, renvoyée perpétuellement à son poids, comme explication de toutes ces maladies pour lesquelles elle vient consulter, avec en toile de fond un discours culpabilisateur intolérable. Hein, si vous n'avez pas ce poids-là, vous n'auriez pas ces problèmes-là. La grossophobie des soignants et soignantes est telle que beaucoup de personnes grosses n'osent finalement pas du tout aller consulter. Et les conséquences ne se voient pas que dans l'accès aux soins. On la note évidemment au niveau des vêtements, de l'adaptabilité des transports, des sièges dans les lieux culturels. L'ensemble contribue au final à exclure les personnes grosses de la vie sociale et de la sphère publique, à les invisibiliser, à les faire se sentir anormales ou trop visibles à chaque instant de leur vie quotidienne, ce qui engendre évidemment une souffrance morale et physique sans borne qui devrait être totalement inacceptable dans la société d'aujourd'hui.
Amen. Le sujet est vaste et la parole commence à se libérer, même s'il y a encore bien du chemin à faire. On va terminer ce trop rapide propos sur le piège du mouvement Body Positive, mouvement qui devait permettre de valoriser les corps dits hors normes, mais rapidement a englobé des corps qui étaient également dans la norme. Si cela montre la mauvaise image que chacun et chacune a de soi à cause des diktats sociaux, cette dysmorphophobie très répandue, le problème est double dans cet élargissement du mouvement. D'un côté, on invisibilise à nouveau les personnes sortant de la norme en les dépossédant de leur propre mouvement. On introduit de nouvelles normes, de nouveaux diktats physiques. La femme a le droit d'être grosse, oui, mais si elle a des beaux yeux, de gros seins, un ventre plat, des courbes proportionnées, etc.
Si elle fait du sport aussi.
On aime les gros culs qui font du sport.
Les gros culs tout musclés, tout fermes, et surtout les gens qui dépensent beaucoup, beaucoup d'argent dans l'industrie du sport, l'industrie capitaliste du sport.
On en avait déjà parlé dans l'émission précédente. C'est fou, hein, tout est lié. Cependant, le mouvement tend à évoluer, on parle de plus en plus de body acceptance plutôt que de body positive. Alors c'est certes un concept exempt de l'idée de normalisation de la grosseur, mais qui vient quand même encore et toujours poser une injonction sur notre corps et sur le regard qu'on porte sur lui. On n'est jamais tranquille.
Bah oui, parce que donc, si d'un côté on invisibilise les personnes qui sortent de la norme, de l'autre, avec le mouvement body positive, on maintient l'idée que le regard masculin, plus globalement d'ailleurs le regard extérieur, est ce qui est le plus important, qu'il a un rôle à jouer dans la manière dont on se valide, dont on se valorise, dont on s'accepte, alors qu'en fait il faudrait se débarrasser totalement de cette question du regard extérieur et particulièrement masculin.
Ou se débarrasser des hommes. Bon, c'est un autre sujet.
Ce serait le sujet de notre dernière émission. Mais évidemment, on ne voudrait quand même pas donner raison à tous ces masculinistes qui croient qu'on veut tuer les hommes alors qu'on veut juste les mettre dans des camps de concentration.
Je ne révèle pas notre plan secret.
Je n'ai pas dit où se situait ce camp de concentration. Il est en Creuse.
Chut, pas de mal.
Donc le danger, en fait, c'est pas juste d'invisibiliser les femmes grosses, c'est aussi de les survisibiliser dans le regard masculin avec cette fétichisation, cette hypersexualisation qu'on peut rencontrer dans certains domaines érotiques. Donc en conclusion, il vaudrait mieux désormais parler de body neutral, voire de fat activism, parce que le fat activism a l'avantage de regrouper toutes les problématiques socio-économiques, mais aussi l'aspect politique de la grossophobie, et pas seulement la nécessité d'aimer son corps. C'est très bien de s'aimer, c'est très bien de commencer par soi, mais à un moment donné, il faut que le mouvement devienne politique. La grossophobie, en fait, elle est au cœur de luttes de pouvoir qui touchent au fonctionnement même de la société des lobbies capitalistes, dont on vient de parler et qu'on adore. Une société qui préfère s'enrichir que de favoriser le bien-être de ces individus en imposant des manières de consommer qui sont mortifères pour la santé physique et des manières de penser et des diktats qui sont délétères pour la santé mentale.
C'est clair, il a fallu 2 ans de pandémie pour que les soins psychologiques commencent à être remboursés par les mutuelles. Je trouve ça aberrant. Enfin bref, c'est un autre sujet encore. Action ! Alors, dans une goutte d'eau dans l'océan, on déconstruit ensemble les phénomènes culturels qui participent à former notre esprit, à l'infuser comme une bonne tasse de thé de stéréotypes, de clichés et d'a priori, qui sont source de mal-être, d'invisibilisation et de haine de soi et des autres.
Alors aujourd'hui, on va s'en donner à cœur joie avec plusieurs exemples de grossophobie dans les séries. Alors, il y a un double enjeu ici. D'un côté, c'est ce qu'on a dit un peu plus tôt, donc c'est l'invisibilisation des personnes grosses, c'est-à-dire qu'on leur donne jamais les premiers rôles, sauf éventuellement dans certains types de comédies. La personne grosse est toujours rigolote, ce qui donne en fait l'impression qu'une personne grosse ne peut pas sauver la vie du président, ne peut pas vivre un grand drame personnel, ne peut pas gagner un Oscar. C'est tout sauf valorisant.
Et quand elles sont représentées au cinéma, dans les séries, c'est toujours d'une manière dévalorisante, avec implicitement cette idée qu'une personne grosse doit être drôle, sympathique, le fameux terme que Mareuil a cité plus tôt est rigolote, je le déteste, il rime avec mon prénom en plus. C'en est devenu une blague à l'époque, si tu présentais une meuf comme rigolote, c'était un code pour dire grosse.
Oui, on dit à l'époque que c'est à l'époque moderne, hein, bien sûr.
Il y a 3 ans.
C'était hier. Or, n'en déplaise à notre atroce et nationale Marlène Schiappa, autrice d'un affreux bouquin qui s'intitule « Oser l'amour des rondes » où elle donne des différents conseils du type « être souriante et sympathique, ne pas trop manger en rancard, éviter de chevaucher un mec pour masquer davantage vos bourrelets ou éviter que le partenaire voie votre double menton d'en dessous ».
Cette femme est au gouvernement.
Les personnes grosses ont le droit de faire ce qu'elles veulent, y compris la tronche.
Resting bitch face.
Je lui ai donné le don de voir leur beauté intérieure, leur être, leur cœur.
Il t'a hypnotisé.
Tu veux dire que les top modèles que je drague depuis quelques temps n'ont rien de top modèle ?
Al Larson sort avec une créature de rêve qu'il est le seul à voir.
La voilà, c'est Rosemary.
Où ça ?
Bah là.
Y a un hippopotame garé devant.
20th Century Fox présente...
J'ai jamais entendu prononcer la phrase « l'amour est aveugle ».
Et la phrase « le thon, c'est le steak de la mer », vous la connaissez ?
Pour commencer, on peut parler du ressort comique de la personne grosse. C'est le cas de Rebel Wilson, qui est cantonnée à un certain type de rôle bien contraignant et réducteur. La célibataire marrante, la meilleure amie hilarante, le faire-valoir féminin bouffonnesque. Vous notez comment j'ai évité de dire rigolote ? Mais il y a pire.
Si, si, c'est possible.
Des actrices minces dans des fat suits. L'amour extra large avec Gwyneth Paltrow, ou plus récemment, Debbie Ryan dans l'horrible série Netflix Insatiable. On peut aussi trouver le cas d'actrices grosses dans un fat suit, et oui. Je cite ici le docu « Moi grosse » avec Juliette Katz, qui avait fait polémique et notamment auprès des activistes de gras politique. Pour elle, il existe des parallèles avec la notion de blackface, puisqu'il s'agit de faire de la spécificité physique d'une population discriminée un déguisement. C'est une manière de se moquer assez odieuse, le corps des gros n'est pas un déguisement. Cette polémique rappelle celle des fictions mettant en scène des personnages transgenres joués par des comédiens cisgenres. Dans ces films ou séries, on veut bien évoquer l'existence des personnes trans, mais pas les montrer vraiment. Les corps sont politiques, les corps non normés le sont encore plus. Ce n'est pas étonnant qu'on retrouve les mêmes discriminations entre corps trans et corps gros.
Les burn, les fat suits, bordel.
Oui.
En parlant de fat suits, perso, ceux qui me choquent à mort et qui ont pourtant tribune ouverte, sont supra populaires, sont ceux de nos sitcoms tant aimés que sont Friends ou New Girl, des sitcoms qui osent se revendiquer féministes. Retiens-moi chat, faut pas que je me lance sur le sujet aujourd'hui.
Si tu veux, on fera une émission spéciale sur tout ce qui va pas dans Friends, compte quelques heures par contre.
Way. Your job's a joke, you broke, your love life's the only way.
dans Friends, c'est la très filiforme et control freak Monica, qui est censée avoir été grosse dans son adolescence. Donc c'est une source intarissable de blagues lourdes
lourdes
et récurrentes. On a droit aux vidéos de sa jeunesse pour lesquelles Courteney Cox a endossé le fameux fat suit et toujours, toujours montré avec un gâteau à la main. Les discours stigmatisants de sa mère sur son poids ont donné des résultats puisque à l'âge adulte, elle est devenue super anorexique. C'est hyper inspirant comme conseil éducatif, hein, je pense. Côté mec, on peut citer l'exemple de Schmidt dans New Girl qui connaît le même parcours de entre guillemets rédemption. C'est-à-dire, on part de ses fat suits qui sont atrocement caricaturaux et il a toujours un gâteau à la main. Et il passe au final à avoir un corps avec des muscles perpétuellement exhibés, toujours à poil.
Et il a une sexualité qu'on peut qualifier de boulimique.
Effectivement. Dans les deux cas, on retrouve cette idée qu'une personne grosse est toujours en train de manger. Donc voilà, vous avez tout compris, les gens. Toujours dans le sitcom, toujours dans la grossophobie, mais avec un peu moins de fat suit. How I Met Your Mother est pas mal dans le genre, puisque les histoires comico-romantiques d'amitié qui dérapent entre girls et boys next door ne sont réservées qu'à des gens minces et maigres, quoi.
Mingres.
Voilà, c'est un néologisme.
Ce sera le mot du jour. Le message de ces séries et de ces films est toujours plus ou moins le même. Faites un régime, sinon vous passerez à côté du bonheur.
Oh non.
Quelle tristesse. C'est le cas dans Insatiable. On ne peut pas être heureux ou heureuse en étant gros ou grosse. D'ailleurs, tous les problèmes de Patty s'envolent en même temps que ses kilos lorsqu'elle est contrainte de manger liquide pendant 3 mois après une opération de la mâchoire.
C'est sûr qu'elle ne les reprendra pas après 95% des régimes échouent.
Elle fait partie des 5%. Elle a traversé la rue. Dans L'amour extra large, on nous montre en revanche qu'il est impossible de passer outre le physique d'une personne obèse pour en découvrir la personnalité. Al ne tombera amoureux de Rosemary que parce qu'il la voit mince. Dans le film, d'ailleurs, tous les personnages sont caricaturaux au possible. Les belles filles sont toutes stupides et égoïstes, tandis que les plus laides sont toutes drôles, intelligentes et gentilles. Et les clans gros et minces ne se mélangent jamais. Encore et toujours cette stupide hiérarchie des classes.
Et ce stupide film que moi, perso, j'ai jamais pu regarder en entier.
Je crois que je l'ai vu au cinéma, donc c'est te dire...
Nausée.
Vous voyez ce magnifique top modèle ? C'était moi, Deb, avant que je meure. Je pensais aller tout droit au paradis, mais suite à une fausse manœuvre, je me suis réveillée dans le corps d'une autre. Maintenant, je suis Jane, une avocate super occupée qui a sa secrétaire personnelle. J'ai une nouvelle vie, une nouvelle garde-robe, et les deux seules personnes au courant de ce qui m'arrive sont ma meilleure amie, Stacy, et Fred, mon ange gardien. J'ai toujours pensé que rien n'arrivait jamais sans raison. Maintenant, j'espère ne pas m'être trompée.
La série Drop Dead Diva nous montre elle aussi qu'on n'est pas digne d'être aimé quand on est gros ou grosse, ou alors par une autre personne grosse. L'obésité est toujours montrée comme quelque chose à combattre, ou alors elle est fétichisée. Il n'y a pas d'entre-deux, comme d'ailleurs les rôles de femmes lesbiennes au cinéma ou dans les séries qui ne sont généralement là que pour servir un propos romantique, par exemple, mais qui n'ont que très rarement le droit d'exister en tant que personne, juste exister.
Alors en conclusion, le choix est laissé, soit de l'invisibilité totale, soit la survisibilisation, mais c'est railleur, stigmatisant, et puis c'est même pas des personnes grosses qui jouent leur propre rôle, donc les personnes grosses, elles ont toujours le droit au final à une représentation qui est forcément biaisée, qui est source de mal-être, et qui les exclut de tout ce qui est censé rendre la vie cool. Par ailleurs, l'industrie du cinéma, c'est la pire en matière d'injonction au régime pour les interprètes, en particulier féminines, les acteurs gros ayant pour eux d'avoir de la prestance et du charisme. Qualités qui, on le sait bien, sont inaccessibles à ces cruches de meufs.
Mais tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse ! Méditez là-dessus.
Quand ça va pas, quand ça va trop loin, on se lève, on se casse.
Pour enfin verser cette goutte d'eau qui fera déborder le vase de notre ras-le-bol.
Notre ras-le-cul, tu veux dire ?
Certes. Notre rubrique d'alternatives culturelles vous propose de lire, de regarder, de jouer de manière inclusive et enfin égalitaire.
En série du jour, on en a plein. Alors moi, je vous propose de découvrir ou redécouvrir Shrills, dont est extraite la géniale chanson de Jenny Lewis, dont on vient d'écouter un extrait. Shrill, c'est la jouissive série de Alexandra Rushfield, Lindy West et Aidy Bryant, notamment connue pour ses apparitions hilarantes dans The Saturday Night Live.
Parce qu'elle est rigolote.
Ah, c'est vrai qu'elle est rigolote. Dans la série, elle interprète le rôle d'Annie, qui rêve d'être journaliste malgré son boss trou de cul et autres formes d'adversité familiale. Donc c'est jouissif de la voir rembarrer un troll qui la harcèle sur Internet à base d'un mélange de grossophobie et de fétichisation. Jouissif de la voir s'éclater, faire évoluer ses relations en essayant laborieusement de lutter contre des diktats à la con. Jouissif de connaître sa fucking colocataire Fran, qui est interprétée par Loli Adefop, qui est une femme grosse elle-même, noire et lesbienne. Donc le propos de fond est plus solide qu'il n'y paraît sous ces dehors comiques. On a une visibilisation de corps cool qui travaille à changer notre regard vers plus d'inclusivité et de diversité nécessaire. Et en plus, c'est basé sur un bouquin, donc quand on a fini de regarder, ou avant d'ailleurs, on peut aussi aller bouquiner l'œuvre de Lindy West, Shrill's Notes on a Loud Woman.
Et moins récent, mais toujours aussi bon, moi je vais vous parler aujourd'hui de My Mad Fat Diary, en français, journal d'une ado hors norme. Merci la VF, on rajoute une couche de jugement, super. Adapté des mémoires de Rachel Ray Earl, la série traite en parallèle de maladies mentales, de névroses, TCA, automutilation, mais rien n'est sensationnaliste ou glamourisant. Ici, pas de remède miracle à l'obésité. Les 16 épisodes de la série sont drôles et emplis d'honnêteté, et la voix off de l'actrice principale nous permet de nous plonger dans les pensées du personnage de Ray et de nous identifier à elle. Pour celles qui auraient la possibilité de lire en anglais, la série est directement adaptée du journal intime de Rachel Earl et suit son parcours de réinsertion après un passage en hôpital psychiatrique. Donc comme à Roy, je vais recommander également la lecture de ce recueil qui apporte un point de vue un peu différent sur celui de la série.
En film, des petites alternatives au film de Noël ?
Oui.
L'option de voir Jennifer Aniston en ancienne pageant queen neurasthénique reste un bon plan, en guise de feel-good movie après les fêtes.
On en a besoin aussi après les fêtes.
Ouais. Le film Dumpling met en scène Daniel McDonald dans le rôle de Willow Dean. Donc Willow Dean, c'est la fille de cette ancienne reine de beauté et elle décide de participer à un pageant pour protester contre les diktats de beauté et la grossophobie. Donc c'est assez jouissif. Il est basé sur un roman jeunesse éponyme de Julie Murphy. On va reparler de la nécessité des romans jeunesse après.
Je m'appelle Clarice Precious Jones. Je veux faire la couverture d'un magazine et j'aimerais que mon petit copain ait la peau blanche et de beaux cheveux. Mais ce que je veux par-dessus tout, c'est faire un clip vidéo. T'as rien dans la tête, personne ne veut de toi et personne n'a besoin de toi. L'école n'a jamais des personnes, alors pose ton cul et demande l'aide sociale.
Tu as 16 ans, tu es au premier cycle du secondaire. Et en plus, tu es enceinte de ton deuxième enfant.
Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à ta maison ? Il va falloir que t'en parles à quelqu'un, ma chérie, si tu veux avoir ton chèque.
Precious,
j'ai faim. T'as l'intention de préparer quelque chose, oui ou non ?
Ma couleur préférée est le pourpre. Je chante bien et je suis ici parce que j'aime enseigner.
Je m'appelle Joanne, ma couleur préférée est le beige et je suis ici pour avoir mon diplôme.
Clarice, qu'est-ce que tu sais faire de bien ?
Rien.
Tout le monde est bon dans quelque chose.
Precious, tu vas rester planté là, me regarder comme si t'étais une femme. Tu sais même pas ce que font les vraies femmes. Les vraies femmes se sacrifient. Ah hein, qu'est-ce que tu penses de ça, grosse femme ? Descends tout de suite !
Est-ce que nous pouvons aborder la question des abus qui ont lieu chez vous ? Vous voyez de quoi je parle ?
Vous êtes assise là à me juger et à prendre des notes dans votre calepin. Sur qui vous pensez que je suis ?
Sinon, un peu moins fun, mais incontournable et majeur, on vous recommande de voir, revoir et recommander à votre tour Precious. C'est certes beaucoup moins feel-good. Le film de Lee Daniels met en vedette l'actrice Gabourey Sidibé. On y suit l'histoire de Precious, qui est une adolescente noire et obèse, violée par son propre père. Elle est déjà, quand le film commence, maman d'un enfant trisomique, alors qu'elle n'a que 16 ans. Et elle est enceinte de son second enfant, battu par sa mère. Elle tente de s'en sortir en s'inventant dans sa tête une vie de star. Et progressivement, elle essaye d'apprendre à lire. Donc c'est un film très très fort, très très dur, mais très très beau aussi.
Un petit dernier pour la route, un peu plus feel-good, le film I Feel Pretty, de et avec Amy Schumer, que j'adore, et qui est disponible sur Netflix. Le film, pas Amy Schumer. On y retrouve René, joué donc par Amy Schumer, une trentenaire hyper complexée et mal dans sa peau, qui est persuadée que pour être heureuse, il faut absolument répondre aux critères de beauté des magazines. Après une chute épique à la salle de sport, tout change, elle se réveille, se regarde dans le miroir et se trouve carrément canon. Décomplexée, pleine de confiance, elle ose tout ce qu'elle n'a jamais tenté. Du coup, sa carrière pro évolue, sa vie amoureuse aussi, bref, elle a la vie qu'elle a toujours voulu avoir. Contrairement à l'émission précédente sur le corps où on a parlé de l'affreux concept des films de makeover, ce film-ci s'attache uniquement à un changement intérieur de point de vue qui fait changer le regard extérieur des gens sur l'héroïne. Et ça fait du bien.
Je veux bien l'adresse de sa salle de sport pour aller me croûter la gueule là-bas.
Ça avait l'air violent, hein. Par contre je l'ai vu plusieurs fois le film.
Sinon on vous propose, histoire de lire, une petite sélection de romans jeunesse qui nous sont conseillés par la poétesse et dramaturge Julie Vergès, une féministe et activiste qui sort bientôt un recueil intitulé « Informe » sur les effets moraux du rapport au corps et sa transfiguration en art visuel et poétique. Alors parce que déconstruire les diktats, ça commence tout gamin, à l'âge où on se prend de plein fouet, comme on l'a entendu dans le témoignage, toutes les conneries de ce monde putride. On vous conseille « L'Anguille » de Valentine Gobier et « Le capitaine triple fesse » de Fred Paronudi, au titre assez incroyable. Donc il s'agit à chaque fois d'un ou d'une protagoniste gros et héroïque qui sont valorisés pour leurs nombreuses qualités.
Et oui, dans « L'Anguille », on suit l'histoire d'amitié et de force entre Camille, une nageuse née sans bras, et Alice, que tout le monde raille sur son poids. Quant au capitaine triple fesse, c'est un capitaine pirate, donc on fait difficilement plus badass. Des cadeaux cool pour vous, ou les petits et petites de votre entourage pour échanger les cadeaux pourris reçus à Noël ou pour les prochains anniversaires, quitte à consommer, autant le faire de manière engagée.
Et sans papier cadeau, please.
C'est plus joli que sans papier.
Les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux.
Dans Feu à volonté, on parle du langage, des mots qui bougent tout le temps, qui sont parfois des cages dont il faut scier les barreaux pour se libérer. Le mot du jour mériterait qu'on se le réapproprie et qu'on lui redonne ses lettres de noblesse. Il s'agit du terme « gros ». I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Woo, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in there. Swimwear, going to the pool shit. Come now, come dry your eyes. The sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. If he don't love you anymore, just walk your fine ass out the door.
Alors, selon le CNRTL, le dictionnaire qu'on vous recommande, gros, c'est ce qui dépasse la mesure, qui a beaucoup de volume. Donc, soulignons que l'expression le gros de ou le gros du signifie l'essentiel. Hein. Par exemple, le gros de la bûche.
T'as faim, toi.
C'est vraiment pas très inspiré comme exemple. Or, en fait, à la base, si ce terme est neutre et factuel, il est devenu associé à des connotations péjoratives, donc à l'intérieur justement de cette diet culture qu'on a analysée. Il est devenu une insulte pour nous et non plus un constat tout bête sur la corpulence. Ce dernier terme, d'ailleurs, de corpulence, est lui aussi souvent associé à des connotations péjoratives, alors que corpulence, c'est valable pour tout maigre, mince, mingre, gros, etc. D'ailleurs, on dit un gros mot pour les obscénités, les insultes et autres jurons.
D'ailleurs, placé en antéposition.
Donc, avant le terme qui qualifie, petit instant grammaire.
L'adjectif gros ou grosse est utilisé comme intensif pour aggraver l'insulte, de même que sale, qui relève quant à lui du classisme.
Le classisme, c'est partir du principe que les gens qui ont du bien, culturel ou financier, sont supérieurs aux autres, et donc ça mérite du coup de se traiter de sale clochard. En fait, comme les gens riches ont plus accès à des moyens d'hygiène, ben, on va dire que les pauvres sont sales, ce qui est souvent factuellement vrai pour des raisons totalement explicables et complètement injustes et inégalitaires. Mais donc du coup, on rajoute sale devant toutes nos insultes.
Voilà, ne partez pas du principe que toutes les personnes autour de vous ont accès aux mêmes ressources et à la même éducation. C'est mal. Et vis-à-vis des mauvais usages de ce terme, on peut d'ailleurs citer le titre de la fat activiste Daria Marx, « Gros n'est pas un gros mot ».
Si sinon, on peut se référer à toujours et encore à Gabriel Dédier, qui fait une distinction entre gros et grosse, qui est une description factuelle qu'elle ne perçoit elle-même pas du tout comme une insulte, et obèse, qui n'est toujours pas une insulte, mais qui est un terme qui désigne une condition médicale spécifiquement définie et particulière. Donc si on enlève aux personnes grosses le droit d'utiliser ce terme sans connotation insultante ni péjorative, ça revient encore et toujours à les invisibiliser, parce que comment décrire son propre corps si on ne peut pas dire qu'on est gros ? À leur nier le droit d'exister, leur nier le droit de parler d'elle ou qu'on parle d'elle, un peu comme lorsque l'Assemblée a envisagé de rendre le terme de race illégal, comme pour nier qu'il y avait plusieurs races, alors que le problème, ce n'est pas le concept de race qui est un synonyme de famille au départ, mais c'est le racisme. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait plusieurs races, ni plusieurs genres, ni plusieurs corpulences, c'est qu'il y ait des gens qui veulent absolument établir des hiérarchies entre elles et des systèmes d'oppression.
Pour finir, aujourd'hui on va mettre le feu aux poudres avec Virginie Le Guen, présidente de l'association Le Cocon à Cholet. C'est une association qui propose d'accompagner les personnes en surpoids et obésité en leur offrant des activités autour du bien-être, de la nutrition, du sport et de la psychologie. On l'écoute tout de suite. Alors on aborde aujourd'hui le sujet de la grossophobie. Quelles sont les discriminations dont vous avez pu être témoin concernant les personnes en surpoids dans le monde associatif dans lequel vous évoluez, mais peut-être aussi dans votre vie privée ?
Eh bien, la grossophobie, en fait, c'est tous les jours, au quotidien, dans beaucoup de situations, quasiment toutes les situations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient à l'hôpital, qu'elles soient dans la rue, qu'elles soient à la télévision. Elle est présente constamment auprès des gens qui sont atteintes de la maladie d'obésité. C'est vraiment notre quotidien, tout le temps, et que ça soit dans le milieu associatif comme le milieu privé. Moi, pour ma part, en fait, j'ai été harcelée scolaire et ça crée vraiment des traumatismes qui sont toujours présents, hein. Même 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, c'est toujours présent.
Est-ce qu'on peut dire que la grossophobie est socialement plus tolérée que d'autres discriminations, comme par exemple l'homophobie ou le racisme ?
Bien sûr, mais en fait, la représentation de la personne obèse aujourd'hui, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté, qui ne fait pas son temps qu'à manger. Et la société ne se rend pas compte, en fait, de ce qui les mène à peut-être avoir une sorte, d'avoir tendance à manger plus et aussi d'être un peu plus sédentaire. Qu'est-ce qui amène ces personnes à être comme ça ? Il y a plein de facteurs. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de la nourriture, certains vont manger comme quatre et puis ils vont être tout fins et d'autres, la première chose qu'ils prennent, une sucrerie ou une pâtisserie, ça va se voir tout de suite, quoi. Donc on n'est pas égaux par rapport à ça.
Alors je sais que c'était une question qui vous tenait à cœur, on va parler de la prise en charge médicale du surpoids et de l'obésité. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une prise en charge qui soit bienveillante ?
Bien aujourd'hui, ce qui est compliqué pour nous, en fait, c'est qu'on n'a pas de médicaments, en fait, contre notre maladie chronique. Il n'y a pas de médicaments qui existent. Il y a la chirurgie de l'obésité, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Psychologiquement, c'est un bouleversement. On a recensé quand même un grand nombre de personnes, en fait, qui ont subi des agressions sexuelles étant jeunes. Donc elles se forment une forme de carapace. Donc une fois opérées, eh bien, cette carapace tombe. Et au niveau psychologique, beaucoup de personnes, en fait, des temps d'addiction, en fait, peuvent commencer à boire, soit se droguer. Le fait de manger comme ça, ça peut combler aussi la dépression. Donc en fait, quand on ne peut plus manger, les syndromes dépressifs arrivent et il y a énormément de divorces, énormément de tentatives de suicide après chirurgie bariatrique. Ce traitement-là qui est là aujourd'hui, c'est le seul vraiment qu'on a. Sinon, c'est le changement de mode de vie, de faire attention au niveau diététique, bon, se faire plaisir quand même en mangeant, mais voilà, avec des en mangeant équilibré, faire du sport et puis être bien dans ses baskets, au niveau psychologique. Mais tout ça, en fait, ça a un coût qui malheureusement est tout notre poche. On le sait, les personnes en situation d'obésité, elles sont généralement dans les milieux les plus précaires. Et souvent, c'est un frein à ce que les personnes puissent se soigner parce que financièrement, elles ne peuvent pas payer tout ce qu'il y a à faire pour leur traitement, en fait.
On vient de parler de prise en charge, mais qu'en est-il des moyens de prévention ? Existent-ils ? Sont-ils accessibles et ou abordables ?
Il y a quand même des campagnes qui sont en train de changer. Il y a la prévention à l'école, donc moi je trouve ça important. Maintenant, les axes de prévention sont toujours tournés vers l'alimentation et vers le sport. Donc toujours en représentation que la personne qui est obèse ou l'enfant qui est un peu plus gros que les autres, c'est parce qu'il ne mange pas bien, il mange trop et il ne fait pas assez de sport. C'est toujours tourné de cette façon-là. Et on ne vient pas voir d'à côté l'origine héréditaire, l'origine...
L'origine peut-être psychologique aussi. Comme
oui, il y a l'origine psychologique et puis il y a aussi tout l'origine environnementale. Il y a des produits qui sont mis par les industriels dans les aliments, notamment le sucre et d'autres formules qui font que ça fait prendre du poids énormément.
Et ça fait devenir accro aussi.
Voilà, ça c'est ce qui est fait à l'école. Après, il manque en fait des centres d'information, des endroits où être aussi soigné. Hein. Je suis en études infirmière et j'ai fait un stage en addictologie et je me suis retrouvée avec une personne à soigner qui était atteinte de troubles du comportement alimentaire, elle s'est retrouvée avec des personnes alcooliques parce qu'elle n'avait pas d'endroit où être traitée. Mais du coup, ça ne lui correspondait pas du tout. Elle se sentait pas du tout à l'aise dans ce parcours-là puisque pour elle, ça la correspondait pas. Certes, c'était une addiction, mais elle n'avait pas d'addiction à l'alcool ou à la drogue. Donc, il manque vraiment des moyens aussi pour soigner les personnes atteintes de troubles de comportement alimentaire.
Le terme de grossophobie, comme on l'a abordé en début d'émission, est entré il y a peu dans le dictionnaire. Est-ce que vous pensez que le regard de la société a changé depuis 2017 ?
Je pense qu'il est en train de changer, notamment depuis l'arrivée du Covid, où enfin, je dirais malheureusement, on commence à comprendre que l'obésité est une maladie, et que c'est une maladie chronique, notamment par rapport aux 45% des personnes qui étaient en réanimation étaient des personnes obèses. Donc je dirais que depuis ce moment-là, ça commence à changer. Je vois aussi, moi je suis maman de 6 enfants, donc j'ai 2 enfants qui prennent le même chemin que moi, malheureusement, mais c'est comme ça, on faut faire avec. Et je sens quand même qu'à l'école, il y a un peu plus d'ouverture, en tout cas au niveau des enfants, parce que c'est des enfants qui finalement sont bien acceptés dans leur école et ont des copains, des copines. À mon époque, c'était impossible. Et puis, il y a quand même au niveau des professeurs un effort qui est fait. Et je pense qu'il y a eu des formations de fait. Après, je pense qu'il ne faut pas lâcher, il faut que ça continue en fait.
Et vous, en fait, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans l'associatif et via votre association, donc on le rappelle, Le Cocon, quelles sont les mesures concrètes que vous mettez en place ?
J'ai été opérée d'une chirurgie bariatrique, donc je sais de quoi je parle quand je vous en parle, c'est un vrai bouleversement. Hein. Et puis, on va dire que dans cette période de perte de poids, en fait, on appelle ça la lune de miel, hein. C'est un moment où on se sent capable de tout faire. Du coup, dans cette période-là, j'avais un gain d'énergie, j'étais avec des amis, on faisait beaucoup de sport. Et puis petit à petit, en fait, on faisait du sport dans un salon, et petit à petit, le salon devenait un peu petit. Donc on s'est dit, pourquoi pas proposer qu'on puisse faire du sport ensemble. On a créé une association, hein, nous tous, au départ, on était 6, c'est bien 6 mamans du cocon. Et puis, au fur et à mesure, en fait, il y a des activités qui sont venues compléter, donc l'activité physique adaptée, la nutrition, tout ce qui est attrait à l'estime de soi, la confiance en soi, la sophrologie, l'hypnose, apprendre l'auto-hypnose. Nous, on trouve ça super important, surtout dans les périodes de fringales ou quand on va aborder, disons, le repas. Pouvoir se servir de l'auto-hypnose pour manger en pleine conscience, c'est très important. Voilà, on a tout un panel d'activités où chacun s'y retrouve. En fait, on fait de la marche nordique, de l'activité physique adaptée, du ping santé. Enfin, voilà, il y a plein d'activités.
Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup, Virginie, d'avoir accepté de participer à l'émission.
Bon, merci beaucoup aussi de nous avoir invités.
On vous souhaite plein de bonnes choses en 2022 pour vous et puis pour l'association.
J'espère aussi, oui. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Charbons ardents.
Le mois prochain, on combattra un autre phénomène du calendrier occidental, stigmatisant et phallocrate autant que capitaliste, tout un programme, la Saint-Valentin.
Berk.
On parlera des injonctions au couple, des modèles et des normes, et du mal qu'ils nous font, quelle que soit notre situation. Si vous avez envie de témoigner sur le sujet, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux. On évoquera ensemble...
La pression sociale à être un couple, plus forte pour les femmes que les hommes, surtout passés 25 ans.
Les difficultés, précarité, charge mentale et sentiment d'échec qui en résultent pour les célibataires et pour les femmes maquées.
Les mauvaises raisons de se mettre avec quelqu'un et leurs conséquences.
Les multiples souffrances liées à l'hétéronormativité.
Les problématiques qui découlent du modèle tyrannique de l'exclusivité.
Alors envoyez-nous vos allumettes, qu'on vous fasse un beau bûcher avec Cupidon, ses roses, ses chocolats et ses putains de flèches. Charbons ardents, c'est fini.
Bye.
Pour rester sur des charbons ardents, retrouvez le podcast de l'émission sur www.prune.net.